super. Alors, est-ce que les enfants sont toujours là?
Oui, bon.
Ça y est, ils sont tous endormis. Non, c'est bon, ça va. Alors, on va commencer ce message par un petit jeu où il va falloir dire un peu ce qui se passe dans les photos qui vont passer. Je vais laisser Eloïa l'animer. Alors voilà, il faut le PowerPoint. C'est bon. Ah, super. Donc on peut passer. Le thème ce matin, ça va être de nos maisons à l'église, la transmission. Tout un programme qu'on va développer ensemble.
Donc, il va y avoir une première image et je vais demander aux enfants, les adultes, vous avez le droit de répondre aussi, mais vous allez me dire qui c'est sur cette image. Ah. C'est qui?
Alors, peut-être les enfants, ils ne connaissent pas la série. Hein. Mais voilà, c'est une série qui raconte la vie de Jésus. Donc, c'est Jésus là. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là sur l'image? Ils marchent. C'est ça, ils sont en train de marcher avec Jésus. Donc, les disciples et Jésus qui marchent. Et sur l'image suivante. Ok, sur cette image, ils font quoi? Ils mangent tous ensemble avec Jésus. Ils sont en train de manger, ils font leur repas. Et sur celle d'après, qu'est-ce qu'ils font? Ils rigolent, ils ont des bons moments ensemble, ils s'amusent. Je ne sais pas combien il y a d'images, mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres après. Sur celle-là, ils font quoi? Ils discutent, c'est ça. Ils prient, oui, peut-être. Et sur celle-là, oui, ils pêchent dans un bateau sur la mer. Ouais, ils se consolent. Donc, on le voit sur toutes ces images. Est-ce que Jésus, quand il était avec ses disciples, c'était que des moments où ils priaient ensemble? Non, c'était aussi des moments de la vie de tous les jours où ils mangeaient ensemble, ils marchaient ensemble. En fait, ils faisaient tout ensemble. Les disciples accompagnaient Jésus partout et étaient avec lui dans toutes les activités qu'ils faisaient.
Merci, Eloïa. Exactement, c'est quelque chose de marquant dans cette série. C'est qu'il y a beaucoup de scènes de marche, de voyage, de repas, de temps sympa ensemble, etc. Et c'est vrai que quand on imagine la vie de Jésus avec ses disciples, on imagine que les moments de sermon, de temps spirituel, de guérison, etc. Mais non, être disciple avec Jésus, c'était ça. Alors ce matin, notre thème, ça va être un peu ça, être disciple. Et du coup, j'ai pour vous les enfants un petit coloriage qu'on va vous distribuer et des crayons, peut-être qu'on va mettre les boîtes de crayons vers le milieu. Vous pouvez prendre une poignée de crayons et puis les ramener après. On vous invite à colorier, vous pouvez faire par terre ou sur la chaise, ou peut-être au milieu, Maëva, une devant, une derrière. Et Tobias, tu distribues les coloriages? Super, merci. Donc ceux qui veulent un coloriage, vous pouvez lever la main. Attention, je regarde qui lève la main. Les adultes, on n'a pas le droit, hein, d'accord? Oh, déçu. Vas-y, bah, aidez-le peut-être. Aidez-le, le pauvre, ça fait beaucoup de monde. Super. Il y a plein de monde qui lève la main. Peut-être on peut faire deux tas. Ah ouais, super. Merci. Et puis vous pouvez prendre des crayons et puis vous pouvez rester près de vos parents quand même. Ça va si vous restez près de vos parents ou les parents, vous gardez un œil sur vos enfants. Voilà, super. C'est bon, ça s'installe. C'est ça le culte intergé. C'est qu'il y en a qui dessinent par terre, c'est trop bien. Parce que tout le monde a eu son coloriage. Levez bien la main. Bon, les grandes du fond, elles ont le droit aussi quand même. Hein. Trop bien. Vous pouvez prendre une poignée de crayons et puis vous les ramener plus tard. Hein. Il n'y a pas de souci. Super. Prenez une poignée, installez-vous. Trop bien. Alors par contre, j'avais sorti que des crayons. Alors je te pique ton feutre, t'as vu? Méchant. Si vous voyez des feutres, vous les enlevez, les parents. Mais parce que on va éviter de colorier sur le beau parquet. Après, on va se faire gronder grave. Ah, c'est ça. Super. Alors, je vais demander votre attention. Tout le monde est installé. Puis, ce qui est bien, c'est que quand on colorie, on peut écouter avec ses oreilles. Vous savez ça? Super. Prenez des crayons et puis vous vous retournez à vos places. Hein. Super. Chut. Je vais faire comme à l'école. Chut. Super. Oh, vous êtes trop fort. Notre première diapo, c'est celle d'après. On peut mettre celle d'après. La transmission, est-ce que c'est automatique ? Je vais commencer par une citation d'un professeur en théologie. La question n'est pas de savoir si oui ou non on doit former l'enfant spirituellement. La question est dans quel genre de formation spirituelle sommes-nous engagés ? Sommes-nous rendus de plus en plus conformes au monde ou sommes-nous rendus de plus en plus conformes à Christ ? Qui est d'accord avec moi que suivre Jésus est sa meilleure décision, la meilleure décision qu'il a prise dans la vie ? Vous êtes d'accord. Donc si c'est notre meilleure décision, comment est-ce qu'on pourrait dire « Ah, mais je ne vais pas la transmettre à mes enfants parce que je crois que je vais leur laisser le choix. » Le choix de eux décider ce qu'ils voudraient ou pas. Non, on sait que c'est le meilleur. On sait que c'est la meilleure décision de notre vie. Donc on ne peut pas leur dire ça. On ne peut pas leur dire « Ah non, choisissez. » Non, on sait que c'est ce qui est bon. Et c'est quelque chose qui est très dans notre société quand même, hein, de laisser chacun faire ses choix, chacun faire ce qu'il veut. Et puis je vous rassure, parce que même si vous choisissez de ne pas le transmettre quelque chose à votre enfant, eh ben vous savez quoi ? C'est quelqu'un d'autre qui le fera. Ce sera la maîtresse, la société, les voisins, les copains. Il y aura toujours quelqu'un qui transmettra quelque chose. Alors ce n'est pas une option en fait, c'est nécessaire pour nos enfants, nos petits-enfants, pour la prochaine génération. Car on agit toujours sous l'influence de quelque chose. Et c'est quelque chose de très à la mode. Hein, les jeunes, on connaît tous des influenceurs. Mais les influenceurs, ça influence l'opinion. Il y a une question de consommation derrière. Hein. Il y avait une époque où il fallait acheter des petites boissons énergisantes parce que tel influenceur faisait, etc. Il y a une question de consommation. Mais nos choix sont toujours influencés. Mais nous, on ne veut pas influencer, on veut transmettre. Et on veut aller beaucoup plus loin. On parle aussi d'héritage. C'est pour ça que j'ai mis « est-ce que c'est automatique ?» Parce que vous savez, notre héritage matériel, quand on partira, si on n'a rien fait de spécial, ben ce sera automatique, il sera transmis à nos enfants. Par contre, notre héritage spirituel, si on n'a rien fait, eh ben ce n'est pas automatique, il ne sera pas transmis à nos enfants. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement. C'est vraiment quelque chose dans lequel on doit investir. Un héritage, c'est ce qu'on tient de ses prédécesseurs de la génération précédente. En France, quand on parle d'héritage, ça a quand même souvent une connotation d'argent. Hein, on est très axé là-dessus. Je ne sais pas si c'est pareil dans les pays anglophones. Et la transmission, c'est vraiment l'action de faire passer d'une personne à une autre. On réfléchissait au terme de relais, mais ce n'est pas un terme de relais parce que quand je donne le relais, je m'arrête de courir et je laisse l'autre. Là, on est en train de courir toute notre vie. Il n'y a pas de question de s'arrêter. Il y a une petite, c'est la diapo d'après, une petite étude. C'est One Up, une organisation chrétienne, qui a fait une étude sur 800 adolescents chrétiens, 13-19 ans. Qui c'est qui est entre 13 et 19 ans ici ? Je baisse la main. Farid, je t'ai vu. Super. Ben, ils ont fait une étude sur des 13-19 ans, des chrétiens, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Eh bien, regardez, c'est quand même assez impressionnant. Hein. 55% disent qu'ils ne lisent jamais la Bible par eux-mêmes. 37% disent qu'ils ne fréquentent jamais de lieu de culte. Et 30% disent qu'ils ne prient jamais. Donc, ces chiffres montrent bien qu'il faut avoir une intentionnalité, en fait, que ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce que je suis chrétien que mes enfants vont développer leur foi. Mais je sais que ce n'est pas le cas de vous ici, hein, les 13-19 ans, parce que je sais que vous êtes ici ce matin et que vous êtes motivés. Alors on va survoler ensemble un texte que vous connaissez sûrement par cœur, mais on va quand même, parce que je trouve que c'est tellement fort tout ce qui est dit dedans, c'est le Deutéronome. Le premier verset du Deutéronome, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ces commandements. Le verset d'avant, c'est aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et puis avant, il y a les commandements qui sont donnés à Moïse. Tout ça, Dieu nous les donne et il nous demande de les mettre dans notre cœur. Alors c'est impressionnant parce que nous, en tant que génération, parents, grands-parents, tontons, tatas, eh ben, on doit vivre ces commandements avant de les enseigner. Ils doivent nous habiter, on doit les mettre dans notre cœur. On ne dit pas « mets-les dans la tête de tes enfants », mais en premier, tu les mets dans ton cœur. La transmission, ça ne vient pas d'un discours parfait, mais ça vient vraiment d'une cohérence de vie, de ce que je vis. Et puis on a mis notre relation à Dieu, parce que si je n'ai pas de relation à Dieu, de relation verticale, comment vont être mes relations avec les autres, mes relations horizontales ? On doit cultiver cette relation pour transmettre. Alors une autre étude, vous allez dire, ouais, elle aime bien les études statistiques. Alors là, c'est une étude qui a été faite auprès d'enfants de pasteurs et de missionnaires aux États-Unis. Je le dis avant que Marion me le demande. Pour faire court, ils ont interrogé des enfants de pasteurs et de missionnaires, regardé s'ils suivaient l'engagement dans la foi de leurs parents ou pas. Et ce qui est ressorti, je vous la fais très courte, c'est que deux facteurs importants qui ressortent chez ceux qui ont lâché la foi, malgré l'engagement de leurs parents, hein, on parle d'enfants de pasteurs et de missionnaires. Le premier, il y en a plein, mais je vous en cite deux, c'est l'incohérence entre ce que les parents disent et croient et les pratiques réelles dont l'enfant a pu être témoin. C'est-à-dire qu'il prêchait, il disait ou quelque chose, mais il ne le vivait pas. C'est pour ça qu'on a mis aussi cohérence. Soyons cohérents. Tout ce qu'on dit à nos enfants, il faut qu'on le vive d'abord. Et ça, ce n'est pas facile. Et c'est aussi, la deuxième chose, c'est un sentiment d'abandon de leurs parents au profit du ministère. Ils ne se sont pas sentis inclus comme membres valables de l'équipe familiale. Voilà. Et puis pour vous dire quand même quelques facteurs positifs, ce qu'ils ont retenu qui avait marqué ces enfants, c'était l'authenticité, la positivité, c'est-à-dire servir Dieu, suivre Dieu, c'est bien, c'est bon, on se régale. L'inclusion, viens avec moi, je te prends avec moi. La prière, la démonstration, le souvenir et passer du temps, l'individualité. Bon voilà, tout un programme. Hein. Ce message, ce n'est pas pour vous charger, c'est pour vous encourager à ce besoin de transmettre à la génération suivante. Alors, c'est une transmission intentionnelle et répétée. On suit notre texte du Deutéronome. Tu les répéteras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein ? C'est ce qu'on fait tous les jours, c'est notre vie quotidienne. Et ici, dans le texte, c'est intéressant de voir qu'en grec, enfant, c'est enfant, petits-enfants, jeunesse. Donc ne vous dites pas, mes enfants sont grands ou j'ai pas d'enfants, je ne suis pas concernée. C'est pour tout le monde. On a tous de la jeunesse autour de nous, je crois. On voit dans ce texte que la transmission, ce n'est pas ponctuel, mais c'est quotidien. À la maison, dans le cadre du foyer, on inclut la famille au sens élargi, parce qu'aussi, à l'époque du Deutéronome, je pense que c'était des familles très élargies. On le voit dans des sociétés traditionnelles. Je me rappelle d'un voyage en Algérie avec Farid, je crois qu'il y avait Pierre aussi. Et ben, en Algérie, toute la famille vit ensemble et il n'y a pas de transat pour le bébé, vous savez. C'est la mamie qui, toute la journée, porte le bébé. Voilà, chez nous, on a des transats automatiques. Là, on met la pile et ça... Hein, et ben là-bas, non. Et je pense vraiment qu'il y a cette notion d'élargir la famille aussi. C'est vrai que dans nos sociétés, on vit en famille nucléaire, mais c'est vraiment cette notion de famille dans le sens large du terme. Donc dans la maison, c'est des temps de qualité, discuter, communiquer, prendre des repas ensemble. En France, on est fort pour ça. Hein, on aime bien manger, prendre du temps à table. Et bien, c'est des temps de qualité aussi. On nous dit aussi en marchant. Non, on va rester là-dessus. Pas si vite que ça, quand même. Voyage signifiait à l'époque prendre l'avion, sa valise et aller dans un autre pays lointain. Je regarde si vous dormez. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, on l'a vu hein, sur les photos de Chosen, voyage signifiait prendre son sac à dos, ses sandales et marcher, marcher, marcher. Et du coup, on imaginait que ben, pendant ces temps de marche, ils devaient quand même avoir le temps de discuter, d'échanger, de prier ensemble, de parler. Vraiment des temps de qualité aussi. Mais c'était peut-être aussi ces temps de voyage, des temps d'imprévus. Peut-être qu'on se fait attaquer sur le chemin, peut-être qu'il pleut, peut-être que on a une difficulté, peut-être qu'on se fait mal, c'est aussi peut-être des temps de tension. Mais c'est aussi des moments où on apprend à mieux se connaître et on avance ensemble. On parle du lever et des couchers. C'est des routines du quotidien, mais c'est aussi des occasions pour louer Dieu au réveil, le remercier. C'est aussi le matin où on se lève et on se dit « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et le soir où on se couche, où on est dans le repos, on se relâche, on est plus vulnérable, on n'est pas en action. Et c'est dans tous ces moments-là que Dieu nous demande de transmettre. Mais transmettre quoi ? Qu'est-ce qu'on transmet ? Ben, ses commandements, hein, c'est ce qui est écrit. Donc sa parole, la Bible, mais c'est aussi notre vécu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie ? Est-ce que Dieu répond aux prières ? Oui, j'ai un témoignage. C'est aussi nos valeurs, conformes à la Bible et à ce que Dieu dit, de s'aimer, de partager, de prendre soin, de s'encourager. Et ça, c'est important parce que notre société est en quête de valeurs et les abandonne petit à petit. Moi, je suis professeur des écoles, comme peut-être plusieurs ici. En tout cas, au moins deux, c'est mes belles-sœurs, donc je sais. Et c'est vraiment quelque chose qu'on vit. Il y a de moins en moins de valeurs. Les parents lâchent en disant « ouais, ben, voilà ». Et des fois, ils nous disent « vous pouvez lui expliquer comment il faut faire ça ? Vous pouvez lui dire qu'il faut faire ça ?» Mais non, en fait, c'est votre rôle. C'est votre rôle de donner des valeurs, d'expliquer ce qui est bon. Et puis, communiquer aussi notre expérience, les impliquer, servir, louer Dieu. Et parfois aussi, nos doutes et nos échecs, savoir demander pardon, savoir dire « ah ben là, j'aurais pas dû faire ça ». Ça aussi, c'est transmettre. Et notre but, c'est quand même, comme là on a des fleurs, mais comme une belle plante, d'amener à une autonomie, d'amener à une plante qui pousse bien. On pourra mettre de l'eau, on pourra donner du soleil, on pourra mettre un tuteur, mais on veut que la plante elle puisse grandir toute seule. Alors vous allez me dire, super, mais si je n'ai pas vécu ça, est-ce que je peux transmettre ? Si je n'ai pas vécu une enfance avec Dieu, est-ce que je peux transmettre ? Si c'est quelque chose que je ne connais pas, est-ce que je peux transmettre ? Ben oui, par grâce, par le Saint-Esprit. Et puis nous, on est un bon exemple. Mon mari a grandi dans une famille chrétienne, il a ses parents ici depuis plusieurs générations. Et moi, j'étais la première de ma famille à me convertir. Et mon beau-père aussi, il me dit. Et c'est pour dire que, voilà, j'ai moins vécu ça quand j'étais enfant. Pour mon mari, il y a des choses qui sont vraiment naturelles et qui ne le sont pas pour moi. Mais ce n'est pas grave. On apprend et on a la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui nous parle. Des fois, on essaie des choses, des fois, ça marche, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave. Voilà, on vit par sa grâce et on avance. Vous connaissez ce verset, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». C'est souvent quand on se sent faible qu'on est fort. Alors on continue notre Deutéronome. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. On parle toujours des commandements, hein, d'aimer Dieu de tout notre cœur. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire ne pas oublier. C'est non seulement dans notre cœur, mais on doit veiller à ne pas les cacher, à ce qu'ils soient visibles sur nos mains. Le mot « main » ici signifie « force et pouvoir ». Sur nos yeux, ce qui guide notre regard. Et ici, en grec, ça signifie aussi « faculté mentale ». Des signes clés qui sont visibles auprès des autres. On en connaît des signes clés de notre foi aussi. Quand on se fait baptiser et qu'on invite tout le monde et qu'on témoigne « oui, je suis Jésus ». Quand on prend la Sainte-Cène et qu'on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous, il est mort à la croix. On a aussi des symboles matériels. Ici, j'ai une alliance, parce que j'ai fait un choix. J'ai fait une alliance avec quelqu'un pour la vie. Et dans ce texte, on nous parle de deux symboles que les Juifs ont gardés. Et c'est intéressant de le regarder. Vous avez vu sur la porte, peut-être vous savez ce que c'est, hein, mieux que moi. C'est une mezouza. Et dedans, il y a un petit parchemin où il y a deux passages du Deutéronome. Et donc vraiment de garder ces passages. Alors je ne suis pas sûre que beaucoup aient des mezouzas devant leur porte, mais vous avez peut-être des versets chez vous, avec écrit « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel » ou avec un autre verset. Quelque chose qui vous rappelle et vous dit « Oui, je suis Dieu, je veux le suivre, suivre. Hein. » Et puis, il y a sur tes mains, alors les Juifs ont gardé une tradition aussi, qui sont les phylactères. On va dire « Qu'est-ce que c'est ?» c'est des petites boîtes qu'ils mettent sur leur poignet et qui lient autour de leurs bras et qui contiennent ces passages-là aussi. Vraiment dans l'idée de les garder, de les montrer, quoi. Impressionnant. Ces signes et ces symboles, ça nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Transmettre, c'est quotidien. Alors ce texte, il arrive quand même dans un contexte, vous savez, je resitue un peu. C'est après l'Exode. Le peuple est sorti d'Égypte. Il a vécu plein de miracles extraordinaires. Voilà, ouvrir la mer, la nourriture, plein de miracles. Mais aussi des temps difficiles quand même, hein, 40 ans dans le désert. Voilà, pas facile non plus. Des fois difficile de suivre Dieu. Hein, des fois on se détourne et on se dit, tiens, on pourrait construire un veau d'or. Voilà, donc quand même 40 ans difficiles. Et là, ça arrive 40 ans après. Vous imaginez que 40 ans, c'est une génération. Donc la génération qui est là, c'est pas celle qui est sortie d'Égypte. Ou en tout cas, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils doivent être bien âgés. D'où l'importance de se dire, waouh, on a vécu plein de choses. Mais tout ce qu'on a vécu, ça ne va pas rester si on ne le transmet pas, si on ne le raconte pas et si on ne donne pas des symboles qui restent. D'où nécessité de transmettre à ce moment-là à leurs enfants et petits-enfants en se disant « ils n'ont pas vécu tout ce qu'on a vécu ». Alors on ne lit pas souvent la suite du passage, mais on va lire ce matin parce qu'il est quand même bénissant, mais on ne l'a pas mis. Voilà, bon, ce n'est pas grave. On peut revenir en arrière parce qu'on ne l'a pas mis. Je vous le lis. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. C'est un passage bénissant en disant que Dieu promet la bénédiction. Nous, on ne va pas rentrer dans un pays promis, mais peut-être qu'on en est dans une saison particulière où c'est difficile. Et Dieu nous promet aussi, nous dit, mais suis mes commandements et je te promets que tu vas rentrer dans le pays promis que tu as besoin. Peut-être que c'est dans ton travail, dans ta famille, dans tes finances, mais je vais te faire rentrer dans ce pays promis. Alors, on a parlé de transmettre dans le quotidien et là, tous les parents, on se sent accablés en se disant, oh, comment je vais faire ça? C'est pas possible, c'est trop dur. Et ce matin, on ne veut pas du tout que ce soit un fardeau parce qu'on sait qu'on n'a pas de fardeau avec Dieu. Et pour ça, on va se déculpabiliser en regardant quelques histoires de famille de la Bible. Vous allez voir que vous allez trouver vos enfants magnifiques, adorables et parfaits. Alors, Caïn et Abel. Bon, pas super, on est d'accord, hein ? Hein ? Super, ça commence, de la violence, voilà. Abraham avec Sarah, mais avant avec Agar. Pas évident non plus, quoi. On est d'accord ? On attend la promesse, mais on n'est pas convaincu, alors on va quand même faire les choses par nous-mêmes. Joseph, vendu par ses frères. Voilà. Et puis Élie, prêtre et juge au service de Dieu. Mais il est dit, il servait Dieu. C'est même lui, vous vous rappelez, qui dit à Samuel, mais oui, écoute la voix de Dieu. Donc il apprend à Samuel à écouter la voix de Dieu. Et pourtant on dit, les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Vaurien ici veut dire pervers, indigne, bon à rien. Oula, dur, hein ? Dur. On n'a pas envie qu'on dise ça de nos enfants. Hein ? Voilà. Donc, ceci pour vous dire que les familles sont imparfaites et nous sommes des familles imparfaites. Mais nous avons la grâce de Dieu et Dieu choisit d'utiliser des familles imparfaites et qui font des erreurs. Mais Dieu tourne le mal en bien. Il n'y a pas que votre famille qui est parfois dysfonctionnelle et qui a des problèmes. Rassurez-vous, ce sont toutes les familles. D'où le fait de se dire, mais moi je peux transmettre des choses à mes enfants, petits-enfants, neveux et nièces, mais j'ai besoin aussi d'autres. Et c'est notre élargir le cercle. J'ai besoin de la grande famille de Dieu que nous sommes là. J'ai besoin des amis, des voisins, des personnes qui sont dans mon entourage. On veut transmettre pour voir des personnes transformées et on a besoin que d'autres personnes impactent notre famille. On a besoin aussi des groupes de jeunes, on a besoin des rencontres l'été, on a besoin de plein de choses. Je suis sûre que vous avez plein d'idées. Mais c'est aussi important pour nous de valoriser toutes ces relations positives. Parce que dans la société, il y a aussi des relations toxiques. Ça peut être à l'école, ça peut être dans le sport, dans le travail. Et justement, de valoriser auprès de nos enfants toutes ces relations bénéfiques qui vont leur faire du bien, qui vont les faire grandir. Et c'est vraiment une bénédiction de se dire qu'on transmet dans notre famille, mais on est aussi des témoins en dehors. Et avec Timothée, quand on a préparé ce message, on s'est dit, il faut qu'on invite quelqu'un à parler de ça. Parce que nous, on se sent à l'aise de transmettre, à l'aise, pas tous les jours, mais à nos enfants. Mais ce rayonnement extérieur, c'est vraiment quelque chose que, voilà, qu'on est en chemin. Et donc, on a demandé à mes beaux-parents, donc c'est mon beau-père qui vient, de témoigner, parce que c'est vraiment quelque chose qui porte sur le cœur, de transmettre non seulement à leurs enfants, petits-enfants, mais aussi aux personnes qui côtoient autour d'eux.
Bonjour à toutes, à tous. Au-delà de la famille, et Dieu a béni notre famille, on peut le dire, donc gloire à Dieu. Mais au-delà de notre famille, nous sommes appelés à porter la bénédiction à d'autres personnes. La famille de Dieu peut s'agrandir sans limite. Sans limite. Il y a un verset qui dit, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça fait le sel? Si vous en prenez un peu trop, ça vous donne quoi? Soif. Vous avez compris? Si on est le sel de la terre, là où Dieu nous a placés, dans notre travail, avec nos voisins, avec le commerçant du coin, avec nos amis, eh bien, il faut que notre vie, parce qu'on parlait du témoignage dans la famille, il y a le témoignage aussi autour de nous, eh bien, notre vie va donner quoi? Soif. Vous avez tout compris. Le danger pour beaucoup de chrétiens, c'est que quand on a plusieurs années de conversion, on est bien dans l'entre-soi, dans l'église. On est bien. Et on favorise les relations chrétiennes aux relations non chrétiennes. Donc, il est important, eh bien, de créer du relationnel au travail, avec nos voisins, à l'école pour les parents d'élèves, au club de sport pour ceux qui sont sportifs. Vous vous rendez compte, même moi au club de sport. Piscine, aquagym, dans les associations, dans les engagements, un peu partout. Vous voyez, donc c'est très, très, très important. Parce que ça permet donc aux gens de trouver la vie. Donc, il faut trouver des moyens. Alors, je ne fais pas de l'évangélisation entre dedans avec mes voisins. Dans la rue, c'est autre chose, parce que bon, on les voit qu'une fois. Mais avec les voisins, le voisinage, les collègues de travail, et partout où Dieu me place, je dois créer du relationnel, plein d'amour, d'attention, d'écoute. Et c'est ça qui est important et qui va créer l'ouverture. Voyez ? Et après, il se peut, nous, avec certains de nos voisins, on n'a pas parlé du Seigneur pendant 1 an, 2 ans, mais on a créé la relation en faisant quoi ? Allez, viens goûter à la maison. On va goûter, on va partager la galette. Voilà, et puis quand on a des besoins, par exemple, on a une voisine, 98 ans, qui a eu son évier bouché. Bon, eh ben, pourtant, je ne suis pas bricoleur, mes enfants vont rigoler. Elle m'a demandé de l'aider, donc comme je n'ai pas réussi parce que c'était vraiment bouché, donc j'ai dû faire appel au HLM. Les HLM me disent, mais nous, on ne le fait plus, ce genre de truc. Alors j'ai pleuré au téléphone, disant, vous rendez compte, une petite dame de 98 ans, elle était en larmes, et c'est vrai, avec son évier bouché, il faut faire quelque chose. Alors le mec, il a tellement été touché que il a téléphoné à son chef, et ils ont demandé à une entreprise de venir pour déposer son évier. Donc c'est voilà. Vous êtes bricoleur, bricolez avec voisins, proposez-vous. Vous savez faire de la cuisine, faites des gâteaux et puis invitez vos gens, les personnes chez vous à la maison. Et c'est comme ça que ça se crée. Et puis après, quand l'occasion est donnée, vous pouvez prier. Je l'ai fait donc au niveau des collègues de travail, trouver des occasions comme ça. Je l'ai fait avec des voisins, en invitant à la maison. On a fait la fête des voisins, donc ça, je vous l'encourage. Si vous avez des fêtes des voisins dans engagez-vous dans la fête des voisins et prenez les responsabilités et tout. Et puis les gens viennent et ça crée du lien. Et ça a permis à une de nos voisines, justement, qui s'appelle Rosie, ben de faire le parcours alpha. Vous le faites ici aussi, hein, le parcours alpha. Donc c'est bien. Hein. Je veux dire, et elle a fait le parcours alpha, elle s'est convertie. Ma boulangère, pareil, Caroline. Eh ben, je n'ai pas parlé du Seigneur tout de suite, non. Je l'ai écoutée. Et puis, comme j'étais chrétien, ben, j'ai prié pour elle. Elle avait un cancer, donc c'était. Et je l'ai vue pleurer dans mes bras. Et donc, il y a une relation qui s'est créée. Et après, bon, ben, quand la relation a été créée, quand je l'ai invitée à venir au parcours Alpha, ben, elle est venue. Hein. Et puis voilà, elle a trouvé le Seigneur aussi. Donc, vous voyez, c'est important de créer du relationnel. Et de s'engager. Là, actuellement, est-ce que vous avez dans votre vie des personnes dans votre liste de prières, de voisins, de collègues de travail, de n'importe. Bon, voilà, bon. Si vous faites du sport, voilà. Dans votre liste de prières, est-ce que vous avez des personnes pour qui vous priez ? Tôt ou tard, vous allez devoir dire que vous êtes chrétien. Et alors après, ça vous ouvre la possibilité de prier pour les gens. Encore il y a la semaine dernière, j'ai une voisine, Béatrice, qu'on avait vue à la fête des voisins, une dame quand même assez âgée. Hein. Bon, moi aussi, hein, mais bon, moi je me sens plus jeune. Mais bon, alors elle était âgée, elle me dit « Oh là 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 là, je suis essoufflée pour monter la côte et tout. » Alors, je lui dis « Oui. » Je dis « Bah écoutez, vous savez que je suis chrétien. » Elle me dit « Oui, moi aussi. » Je dis « Bah écoutez, vous permettez que je prie pour vous ? Allez, je prie dans la rue, voilà, pour son essoufflement et tout. » Oh, elle me dit « Vous êtes un amour. » Ne le prenez pas mal, elle dit. Bon, mais pour dire, voyez, c'est ça, c'est écrit du relationnel. Hein ? Donc, et voilà, même Corinne, elle pourrait raconter si elle veut. Hein. Bon, non, mais il y a eu plusieurs occasions où avec la voisine du haut, tu as prié avec la voisine du bas. On a prié aussi, elle avait des problèmes de santé, elle devait subir une intervention chirurgicale en ambulatoire, ben, on l'a pris en voiture, je l'ai ramenée, maintenant, on se fait la bise. Donc vous voyez, c'est ça quoi. J'ai une autre voisine, je faisais du sport, un peu, une ou deux fois par semaine, donc je me suis dit, tiens, plutôt que d'aller dans une salle où il n'y a personne, je lui ai dit, dans quelle salle tu vas ? Je me suis inscrit dans la même salle. Et comme ça, ben, le matin, une fois par semaine, je la prends dans la voiture et puis on parle du Seigneur. J'ai déjà prié pour ses enfants. Je veux dire, et pour elle. Et elle me demande même de prier. Donc, mais elle n'est pas encore convertie, mais voyez, c'est ça. Et au fond, donc, vous pouvez agrandir le tissu de relations et voir le Seigneur à l'œuvre. Dernier verset, parce qu'il ne faut pas que je dépasse le temps, hein, c'est bon. Alors. Dès le matin, l'Ecclésiaste 11:6, dès le matin, sème ta semence et jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les deux, seront un succès. Donc, semons. Mais tout d'abord, semons de l'amour. Et le Seigneur fera le reste.
Merci. C'est notre but, hein, être disciple et faire des disciples. C'est la diapo d'après. Vous connaissez ce verset. Hein, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Le programme du Deutéronome 6, c'est une vraie formation de disciples. Alors, on parle peu de disciples dans l'Ancien Testament. On parle d'élèves dans Ésaïe. Mais on en parle dans le Nouveau Testament avec Jésus qui avait pris les disciples à ses côtés. Et c'est vraiment un terme central et on l'a vu au début dans les photos. C'est vraiment, c'est pas juste un élève qui apprend. Être disciple, on ne reçoit pas un savoir, mais un style de vie, une relation personnelle. Et c'est vraiment notre désir en fait, que les gens ils puissent regarder, que ce soit nos enfants, nos voisins, nos collègues, ils puissent regarder à Jésus et pas à nous. On ne veut pas qu'ils développent une relation, on n'est pas leur intermédiaire du tout, mais ils développent leur relation de façon autonome. On a envie qu'ils construisent la leur et que leur regard soit tourné vers Jésus. Et puis on est toujours un disciple en formation, on n'est jamais fini, hein. On est toujours, on apprend toujours et on reçoit toujours. Et c'est vraiment l'image d'après, cette action croisée. On a pris cette image de tissu, on a pensé à l'image aussi d'une toile, dans l'idée qu'on est fait de plein de tissus, plein de fibres, et ils viennent de différents endroits. Ça peut être nos parents, nos grands-parents, ça peut être des amis proches, ça peut être des personnes dans l'église, ça peut être nos responsables de groupes de jeunes, nos responsables d'activités. Mais tout ça, ça va former ce réseau qui nous constitue parce que chacun nous aura transmis quelque chose. Peut-être quelqu'un, ce sera son don dans la louange, peut-être une autre personne, ce sera sa façon d'aller parler et prier pour les voisins. J'aimerais avoir la facilité et la liberté de mes beaux-parents d'aller et de prier comme ça avec les voisins. Voilà, toutes ces personnes qui nous transmettent et qui font ce beau tissu solide. La transmission, c'est pas que dans un sens, et ça, ça nous soulage aussi en tant que parents. On se dit, on fait du mieux qu'on peut tous les jours, et on doit le faire, on doit être intentionnel, mais on sait que d'autres personnes vont venir. Et c'est beau aussi de se dire que même dans nos familles, quand nos enfants grandissent aussi, ils peuvent se transmettre aussi et s'encourager les uns les autres. Nous, on vit une nouvelle étape que plusieurs d'entre vous ont vécue, c'est qu'on a notre grand qui est parti faire ses études à Paris. Et ça, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais c'est beau de voir que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a transmis, eh ben, c'était pas que dans une direction. Et je sais qu'ils ont des rendez-vous téléphoniques entre frères et sœurs et que le grand frère aussi, mais aussi les frères et sœurs s'encouragent et disent « Toi, comment tu vas ?» Et est-ce que tu arrives à prendre du temps avec Dieu? Est-ce que tu fais ça? Et voilà, ça tissait de tous les côtés. Ce n'est pas que dans le sens des parents, mais c'est vraiment de tous les côtés. J'aimerais conclure avec ce qu'a dit Gérard. Est-ce que vous avez, dans votre tête, en parlant de cette transmission de faire des disciples, quelqu'un à qui vous pensez? Peut-être c'est quelqu'un dans votre famille, proche ou lointaine. Peut-être c'est un collègue de travail, collègue d'école, un copain d'école pour les enfants. Peut-être que c'est un voisin, mais quelqu'un vous dit « Toi, j'ai déjà parlé un petit peu, mais j'aimerais tellement plus. J'aimerais tellement plus. » Je vais vous laisser quelques secondes pour penser. Et puis, on aimerait juste conclure ce culte comme ça. On finit assez à l'heure parce qu'on s'est dit que les enfants, ils ont été super. Et que, voilà, on ne va pas non plus trop traîner parce qu'on sait qu'ils ont envie de bouger. Et puis, Noam va jouer du piano. Et puis voilà, on va juste prendre quelques minutes comme ça et je vous invite juste personnellement, cette personne que vous avez en tête, ça peut être plusieurs personnes, hein, y a pas de, voilà. Mais les enfants aussi, si vous pensez à un copain d'école, les enfants, je vous invite à retourner avec vos parents pour ce moment de prière. Vous pouvez aller sur leurs genoux, trop bien, ils vont vous faire un petit câlin. Voilà, si vous pensez à un copain, une copine, peut-être votre maître ou votre maîtresse ou votre prof, qui est parfois difficile... Peut-être ça peut être un copain de classe, peut-être ça peut être un copain au sport, à la musique, peu importe. Mais c'est vraiment un moment où vous pouvez apporter cette personne à Dieu. Et puis peut-être que Dieu va vous inspirer aussi, va vous dire « invite-la à boire un café », va vous dire « dis-lui cette parole de ma part », va vous dire quelque chose. Et donc du coup, ça va être juste un moment comme ça. Et puis dans quelques minutes, Luc conclura par la prière pour terminer ce culte. Voilà. Donc je vous laisse qu'on puisse apporter cette personne et que c'est Dieu qui agit. Nous, on transmet tout ce qu'on peut, on est à son service, mais c'est Dieu qui agit.